Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet.
Chances are, cause I wear a silly grin.
Vous le savez, j'aime les artistes. Et aujourd'hui, nous avons un artiste dans notre studio. Il s'agit de Antoine Bouchaud. Antoine Bouchaud, bonjour.
Bonjour Claire-Lise.
Vous êtes artiste, vous êtes pianiste. Et alors, quand on vous demande ce que vous faites et que vous répondez pianiste, parfois, la réponse de votre interlocuteur est un peu étonnante.
Je déteste cette question, que j'élude d'ailleurs très souvent. Je dirais pas étonnante, puisque c'est toujours la même. C'est « Ah bon ?» Et tu arrives à en vivre. Ce qui ne marche qu'avec un pianiste ou un danseur ou avec, qu'avec les artistes, puisque un plombier ou un avocat, jamais on lui posera « Mais tu arrives à gagner ta vie avec ce métier ?» Et je crois que cette question repose sur une espèce d'histoire qu'on se raconte, qui est... Le travail doit être un calvaire. Le travail doit être quelque chose de quelque chose de pénible. Moi, quand j'étais petit, à l'école primaire, souvent en début d'année, l'institutrice nous demande est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard dans la vie ? Et moi, systématiquement, je répondais musicien parce que c'est ma langue maternelle, quoi. Et puis je savais, j'avais l'intuition de vouloir faire ce truc-là. Là, c'est là où la maîtresse me racontait une histoire qui faisait peur, c'est que, mais musicien, c'est compliqué, c'est pas facile pour en vivre, c'est très précaire, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc, quand on est petit, on y croit à ce que nous raconte notre maîtresse, on y croit dur comme fer, puisqu'elle est là pour nous, elle nous apporte le savoir, etc. On pense pas que notre maîtresse n'est pas musicienne, et elle est probablement pas dans ce milieu... Donc elle nous raconte aussi une histoire qu'on lui a racontée, quoi. Et ça pose beaucoup d'angoisse. Déjà, on est déjà petit, on a déjà un rêve, et on est déjà en train d'affronter des angoisses de « Ah bah si ça se trouve, je vais pas réussir à gagner ma vie, si ça se trouve, je vais être SDF, etc. » Et finalement, les années passent, et il y a ceux qui persévèrent, ceux qui arrivent à surmonter cette peur, ou qui se disent « Bah de toute façon, c'est ce que je veux faire, et puis le financier, etc., le pécunier, on verra plus tard. » Et on se confronte à la réalité, et en fait, c'est pas du tout compliqué de gagner sa vie en tant qu'artiste, parce qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin, et on refuse du boulot tout le temps, en fait. Moi, personnellement, je suis pas du tout... Je connais un million de pianistes meilleurs que moi dans plein de domaines, et pourtant, on me demande de jouer, on me demande d'enseigner, on me demande d'accompagner des chorales, des cours de danse, etc., et j'ai beaucoup moins de mal, j'ai l'impression, à trouver de quoi me nourrir, à trouver du travail, que des gens qui sont dans mes amis qui sont dans des parcours beaucoup plus classiques, beaucoup plus rassurants. J'ai une de mes meilleures amies qui a un master de droit, et ça a été très compliqué, alors que pourtant, personne ne s'est jamais inquiété pour elle quand elle faisait son droit, quoi. Alors que... Tout au long de mes études, ça a été toujours « Ah ouais, tu crois que tu vas t'en sortir ?» et tout, etc. Voilà, donc il y a cette espèce d'histoire, je ne sais pas qui l'a inventée, cette espèce d'histoire effrayante que être artiste, c'est dur. C'est sûrement pas un artiste, mais celui qui a inventé cette histoire, qui l'a écrite, je ne le remercie pas. Vraiment, je ne le remercie pas. Alors peut-être que si ça se savait, si ce secret de Polichinelle, qu'en fait on peut vivre de sa passion... et que c'est pas compliqué, peut-être que tout le monde ferait ça.
C'est pour ça qu'on fait cette émission, Antoine Bouchaud.
C'est pour ça, c'est pour...
C'est pour que vous puissiez partager votre parcours de vie, vos 28 années de vie, mais aussi pour pouvoir transmettre aux auditeurs qui nous écoutent, qu'ils aient 20 ans, 50 ans ou 80 ans, que oui, on peut devenir artiste, et on peut devenir pianiste, et on peut devenir musicien, et que oui, on gagne sa vie quand même.
Et c'est comme tout le reste, en fait, c'est comme tout dans la vie, l'important c'est de le vouloir. Plus on veut quelque chose, c'est pas une histoire de talent, de capacité innée, de chance. Moi j'ai eu énormément de chance, je retire pas ça du tout de l'équation. Je suis né dans une maison avec trois pianos dedans, quoi. J'ai un luxe On s'en rend pas compte quand on est petit, hein, c'est normal. Et même.
Et votre père était pianiste.
Et mon père était pianiste.
Il l'est toujours.
Ma mère était mélomane. Mes sœurs sont pianistes aussi.
On leur dédie cette émission, d'ailleurs, vous m'avez dit.
Oui, j'aimerais bien. Voilà, je veux qu'elles sachent que je pense à elles et que je me souviens qu'elles m'ont fait travailler mon piano et mon solfège quand j'étais petit. Pareil, je me rendais pas compte que être une ado de 15 ans avec des amis, des devoirs, etc. Et consacrer une heure à son petit frère pour lui faire bosser son solfège ou son piano, je me rendais pas compte de ce cadeau-là, parce que moi j'ai pas eu de petit frère et que j'ai pas eu ça à faire. Donc merci les filles, merci Caro, merci Charlotte. C'était vraiment chouette et voilà, mieux vaut tard que jamais quoi.
Et puis aussi merci Jean-Luc et Catherine, vos parents,
ont
été très présents, qui vous ont beaucoup soutenu et qui ont été aussi dans une grande bienveillance.
Énorme. Alors. Bienveillance, je mets un tout petit bémol. Il y a toujours cette histoire de rêve par procuration. Voilà. Bon, on en a parlé avec mon père, ce truc est résolu. Lui, c'était son rêve de devenir musicien. Et il a essayé avec ses 5 enfants, je suis le dernier. Il a tous essayé de faire de nous des musiciens pour vivre son rêve par procuration. Je lui en veux pas du tout, puisque je suis très content. Enfin, je suis très content d'être là où je suis. Et je sais pas du tout ce que je ferais de ma vie et de mes 10 doigts si j'avais pas trouvé ce truc-là, ou si j'avais pas été trouvé par ce truc-là. Mais oui, énormément de bienveillance, de soutien. Quand il a fallu commencer à mettre un petit peu de côté les études académiques, les devoirs, le collège, le lycée, tout ça, il comprenait, il m'a toujours amené, mes parents, ils m'ont toujours amené au conservatoire pour travailler. Pareil, ça prend un temps fou, on se rend pas compte. Quand on est gamin, on se rend pas compte que, bah oui, bah, papa, il a fait 3 allers-retours aujourd'hui. Et ça, c'est une chance extraordinaire d'avoir des parents dispo, m'amener en stage de musique à l'autre bout de la France pour que je puisse me perfectionner avec un maître. Ça coûtait un bras, ça coûtait du temps et de l'énergie, et là ils ont dépensé sans compter quoi.
Antoine Bouchaud, vous avez choisi, comme tous les invités de cette émission, des objets, des photos, des senteurs, enfin des photos. Pas beaucoup, parce que vous m'avez dit que vous n'étiez pas visuel. On va le voir au cours de cette émission. Vous avez choisi un premier morceau de musique, c'est Sibelius, et c'est l'esquisse opus 76. Alors pourquoi avez-vous choisi ce morceau ?
Alors c'est un petit pied de nez. C'est le premier morceau auquel j'ai réfléchi. Je voulais quelque chose de très court pour qu'on puisse l'entendre en entier. Tout simplement.
Ah oui, parce que je vous ai dit, c'est pas une émission musicale. On va mettre des extraits de musique de 1 minute 15 en moyenne, puisque c'est le rythme que nous mettons dans cette émission portrait. Et du coup, celle-ci fait
56 secondes. C'est vraiment une esquisse et ça raconte plein de choses. Et je me suis toujours dit... Quand j'écoutais la radio, ce genre de rencontres qui sont où les invités sont passionnants, etc., et où on choisit un morceau de musique, alors l'invité, oui, vous avez choisi le concerto de Mozart numéro 21, et on entend l'introduction du concerto de Mozart numéro 21, et le truc qu'on désire le plus, parce que Mozart c'est vachement bien fichu, tout ce qu'il fait, qu'on désire le plus après avoir entendu l'introduction du concerto de Mozart, c'est d'entendre le concerto de Mozart, et c'est là où le type se remet à parler. Alors moi je râle dans ma voiture, mais non, mais laissez Mozart, coupez pas la parole à Mozart. Je m'étais dit, le jour où ce sera moi, je dirais non, je taperai du poing sur la table, on écoute en entier. Mais en fait, je me prête au jeu, et j'ai voulu trouver un morceau qui rentrerait dans ce petit créneau.
Alors on écoute cette pièce de Sibelius qui fait partie de vos tubes.
Donc c'était l'esquisse opus 76 de Jean Sibelius, une pièce pour piano de Jean Sibelius, que j'ai découvert il y a à peine un an, c'est le premier CD que ma mère m'a offert. Elle m'a jamais offert de CD, elle était probablement très intimidée. Et là, elle s'est jetée à l'eau, et maman, bravo, enfin, je lui ai dit de vive voix, mais je le redis, elle a complètement tapé dans le mille, je suis tombé amoureux de cette musique. Maintenant, c'est quelque chose que je joue assez régulièrement, que ce soit les impromptus, écouter les impromptus de Jean Sibelius pour piano, la valse triste, le capriccietto, les petites pièces opus 76, c'est assez merveilleux. Et alors, les musicologues détestent la musique pour piano de Jean Sibelius. Voilà. Dans les bibles de musicologie, je suis allé voir, tiens, qu'en pensent les savants. D'après eux, Sibelius détestait la musique pour piano, détestait le piano, il n'aimait pas cet instrument, c'est trop simple, c'est trop... Voilà, il a osé faire des morceaux d'une minute, vous vous rendez compte?
Là, c'était interprété par...
Leif Ovandnes.
Et vous n'avez pas voulu mettre un morceau que vous auriez interprété vous-même. Vous pensiez que c'était pas suffisamment modeste, alors que moi j'aurais bien aimé, mais bon.
Ah oui, mais c'est aussi pour attiser la curiosité. Venez, si vous voulez m'entendre, venez me voir en concert, c'est toujours beaucoup plus sympa. En plus, on a l'occasion d'en discuter après. Et ouais, j'aurais pas osé. Il y a tellement d'artistes merveilleux en plus dans le coin, dans la région, que consacrer le temps que vous m'offrez, Claire-Lise, à écouter ma musique que je connais déjà, je trouvais ça un peu narcissique. Quoi.
Des artistes merveilleux, on va en écouter un autre tout à l'heure, il s'agit de Pape Sissoko, on va l'écouter juste après, qui sera à la Cora. Mais là, pour le moment, j'aimerais que nous parlions de la seule image que vous avez trouvée, qui était ce choix visuel. Vous n'en avez pas beaucoup, puisque ça n'est pas la chose que vous préférez. D'ailleurs, vous me dites qu'un gros groupe de musique est mieux de faire un mauvais clip vidéo qu'une bonne maquette audio.
Oui, il y a une tyrannie de l'image en ce moment. Alors c'est probablement parce que les médias qu'on utilise pour communiquer aujourd'hui sont très efficaces quand il s'agit de transmettre des images. Un petit peu moins pour solliciter les autres sens, puisque le son d'un smartphone, c'est pas génial. Les odeurs, le toucher, j'en parle pas. Et ouais, aujourd'hui, tout passe par l'image au détriment de nos autres sensations. Et je trouve ça super dommage. Les Instagram de nourriture, je comprends pas, en fait. Ce qui me plaît dans un plat, c'est pas forcément que ce soit beau. Ça fait partie du truc. Mais c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on a l'idée de manger en tête. Et voilà, ça choque personne d'avoir des Instagram avec 200 photos de plats. Ça me raconte rien. La photo d'un plat, ça me raconte pas les textures, les saveurs, et on s'en contente. Je trouve ça voilà, j'ai une petite rancœur vis-à-vis de cette tyrannie de l'image.
C'est Fripouille qui est sur cette photo.
C'est Fripouille, c'est le chien de ma maman.
C'est quoi comme marque?
Comme marque,
oui.
c'est les meilleurs chiens. C'est un mélange, c'est un patchwork, un cocktail. Voilà, il y a le bobtail, ça c'est un cocktail. Il y a de tout dedans, sans pédigré. Je crois qu'il y a même du hamster dedans. C'est un truc pas possible.
Donc c'est un petit chien blanc, tout mignon.
Il est pas petit, il est un peu costaud quand même. Il est hyper mignon. Et moi, il m'amène à me poser cette question. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour mériter les chiens, nous les humains? Quand on sait ce qu'on est capable de faire en bien, mais surtout en mauvais, pourquoi ils nous aiment autant, ces bêtes-là? Comment on a pu les mériter?
Vous avez dit aussi, lorsque vous m'avez montré la photo, que c'était la preuve qu'un chien qui a été élevé uniquement dans l'amour, il ne peut être que dans l'amour, que gentil. C'est pas ce que c'est d'être
agressif. Mais pas forcément un chien, en fait.
Oui, bien sûr.
De toute façon, on n'est que ce qu'on absorbe, que ce soit matériel, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, mais ça marche aussi avec les émotions. Et oui, quelqu'un qui ne connaît pas la haine, il est incapable de haine, puisqu'il ne sait pas ce que c'est. C'est pas dans son répertoire. Et voilà, et effectivement, ce chien n'a connu que l'affection, et il est capable de donner que ça. Et il adore ça, c'est son truc, les papouilles... Voilà, c'est une créature formidable. Et ça en dit long sur la personnalité de ma maman, quoi. Si vous voulez savoir un peu comment elle est faite à l'intérieur, il suffit de regarder son chien, quoi. Il suffit de regarder la créature qu'elle a élevée et tout est dit, quoi.
Alors, vous avez choisi des senteurs. Et vous avez choisi celle-ci dans ce petit pot qu'on a ouvert ensemble. Et vous m'avez dit, allez-y, sentez ça. Alors, j'ai senti le cumin.
Oui, le cumin.
Et le cumin, il vous amène, c'est une petite madeleine de Proust,
c'est
il vous
complètement
amène
une
directement
madeleine.
À une histoire d'amour.
Absolument, à ma première histoire d'amour. Et à à la libération d'une angoisse. En fait, pour vous raconter en quelques mots, c'était la première fois qu'il fallait que je fasse à manger à ma petite copine. Voilà. On était là, on était chez mes parents, il n'y avait personne, on était très bien, et on avait faim, et il fallait manger. Et je ne savais pas ce que c'était que faire à manger, parce que j'avais 14 ans. Donc, une fois qu'on a fait cuire du riz avec plus ou moins de réussite, et qu'on a ouvert une boîte de thon, bah, y a rien de très génial qui nous attend. Alors qu'on vivait un moment de... Voilà, c'était les premiers émois, etc. On ne pouvait pas mettre une... J'ai commencé à farfouiller dans la cuisine, à sentir des trucs, à aller chercher, mais comment je vais me sortir de ce truc-là, je peux pas. Et j'ai senti le cumin, j'en ai mis dans le riz, on a lié ça avec un tout petit peu de crème fraîche, et là, tout de suite, il se passait quelque chose, tout de suite, c'était bon, quoi. Je me dis, ah ben en fait, c'est ça la cuisine, c'est simple. C'est hyper facile de faire des trucs soi-même. Voilà. Et aujourd'hui, j'adore cuisiner. Je sais que ça vient de là. Que ça vient de... Alors, c'était quelqu'un de formidable, puisqu'elle m'a dit que c'était super, qu'elle était très contente, etc. Donc, j'étais très content. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, elle a été hyper bienveillante. Et, voilà. Mais merci, Elisa. Écoute, si tu m'entends, voilà, c'est grâce à ce souvenir, je pense, que je prends autant de plaisir à cuisiner aujourd'hui.
L'autre senteur que vous avez choisie, alors, elle est diamétralement opposée.
Ouais, alors, l'essence, l'odeur de l'essence.
Il a amené, hein, vous qui nous écoutez, vous ne pouvez pas sentir ça, mais vous connaissez cette odeur-là. Mmh. Il a amené un petit torchon sur lequel il a mis l'odeur de l'essence du réservoir de la voiture pour que justement il y ait l'odeur là, dans le studio.
Ah bah oui.
Donc c'est bien, hein, j'avais demandé d'amener les odeurs, vous les amenez, ah bah oui. C'est super. Alors pourquoi avoir choisi ça ?
Alors... Ça pose beaucoup de questions. Je pense que je ne suis pas le seul à adorer l'odeur de l'essence. On est plein à aimer l'odeur de l'essence. C'est quand même bizarre d'aimer l'odeur de l'essence, puisque l'odorat, c'est quand même un sens qui est censé nous dire « ça, c'est toxique, et ça, tu peux y aller, tu peux manger, ça va être bon. » Et l'odeur de l'essence, qui est très appétante, moi, j'essaye d'expliquer. Je sais, moi, ça me ramène, c'est encore une petite madeleine, ça me ramène aux stations-service. Et les stations-service, c'est le moment où, quand on part en vacances avec la famille, on fait une petite pause, on s'arrête, on se dégourdit les jambes, et quand on est gamin, on est trop content, parce que ça fait 2 heures qu'on est dans la voiture. Et ça me ramène à mon papa aussi. Je parle beaucoup de mes parents, mais qu'est-ce qu'on est si ce n'est ce que nos parents ont fait de nous. C'est là que j'ai appris la musique, en fait. Ces heures de voiture à écouter du jazz.
Vous avez parlé de tournoi d'échecs aussi.
Oui, c'est pour ça qu'on faisait des heures et des heures. J'ai passé la plupart du temps de mes vacances avec mon papa à arpenter la France.
Des moments joyeux.
Voilà, c'était super à faire des tournois d'échecs à droite à gauche. C'était notre passion tous les deux. C'était le truc qu'on avait. C'était notre truc à nous, quoi, les mecs. Parce qu'on était 2 mecs dans la famille, quoi. C'était notre petit truc à nous. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le jazz et écouté du jazz. Et quand je me suis mis au jazz 10 ans après, j'avais des trucs qui sortaient instinctivement tout seul. J'avais déjà le vocabulaire, mais j'avais jamais bossé ce truc-là. D'où ça vient ? Bah oui, mais forcément, j'en écoute depuis que je suis môme.
On écoute un morceau de Charles Mingus. Antoine Bouchaud, vous allez nous en parler juste après. We'll be right back.
Voilà, alors ça, c'est pour un copain, un saxophoniste bourré de talent. Le premier type qui m'a dit « Est-ce que tu veux bien jouer du jazz avec mon groupe ?» Parce qu'il était en panne de pianiste, j'avais jamais fait ça, il m'a fait confiance. Et bah voilà, aujourd'hui, j'enregistre un album de jazz, probablement grâce à ce mec-là. Je voulais absolument entendre ce morceau-là, parce qu'il là, aujourd'hui, il est en train de remporter le combat de sa vie. C'est-à-dire que 8 mois après une méningite, c'est le moment où il va pouvoir remarcher, où il commence à reparler, etc. C'est très compliqué. Je sais qu'il écoute cette émission avec sa femme, et quel que soit l'état dans lequel il est, parce que parfois il est très fatigué, je sais que ce morceau-là, il va le pister, que ça va lui mettre la banane, parce que ça a été sa sonnerie de téléphone pendant des années. Puis le son de ce baryton, quoi, je vous ai dit, c'était un saxophoniste qui adorait le baryton. C'est la preuve aussi qu'on peut faire de la musique avec toutes les émotions, y compris la colère. Charles Mingus était quelqu'un de très en colère, parce que les Noirs souffraient beaucoup et souffrent encore, mais dans son livre, je vous recommande son livre « Moins qu'un chien » de Charles Mingus. Voilà, et tout est bon à raconter dans la musique, et la musique ça sert à ça, et l'art d'ailleurs ça sert à ça. Voilà, on peut tout dire, on peut communiquer toutes ces émotions, et là c'est vraiment la rage, et c'est pas désagréable à entendre en fait, la rage en musique.
Alors, étant donné que vous n'avez choisi qu'un seul visuel, qu'une seule image, je vous l'avais dit, hein, que vous pouviez modifier un petit peu ces choix et que du coup vous pouviez choisir un morceau de musique supplémentaire. Et donc vous avez choisi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est Pape Sissoko, qui est un Havrais. Et qui habite au Havre.
Ouais, c'est un Sénégalais.
C'est un Sénégalais.
Et on a la chance d'avoir ce monsieur-là chez nous et de pouvoir l'entendre et le rencontrer. Je vous invite à aller travailler avec lui puisqu'il anime un atelier de musique africaine.
Et il Où a ça plein
au
ça
Conservatoire du Havre.
Okay.
Il a plein de choses à raconter et il fait une musique que je trouve absolument formidable, solaire, généreuse.
Alors là, on l'écoute à la cora et au chant. Et puis, donc, cet instrument qui ressemble un petit peu à une guitare. Et
ouais, une harpe, plutôt une harpe. C'est plus proche de la harpe. Voilà, la cora, c'est une... En fait, c'est une espèce de double harpe avec 2 rangées de cordes. Et ça procure une sensation, mais d'apaisement. Dès qu'il sort, dès qu'il va quelque part, qu'il sort son biniou et qu'il gratouille pour l'accorder... Le corps se détend automatiquement. Je vois ça, je vois l'effet que ça fait au public à chaque fois, puisqu'on a joué ensemble. À chaque fois, les gens. Le cœur ralentit, il y a une paix, il véhicule une paix, ce type. Et sa musique, c'est fabuleuse. Quoi.
Et puis, juste après, on va découvrir une senteur, la dernière que vous avez choisie, qui va nous emmener aussi bien loin. Il a fait le Conservatoire du Havre, il a un diplôme d'études musicales, il a fait le Conservatoire de Genève, le supérieur. C'est Antoine Bouchaud qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Antoine Bouchaud, vous avez choisi différents éléments, comme tous les invités de cette émission, et vous avez choisi un drôle d'objet. Il s'agit d'un découpe ananas.
Oui, alors c'est absolument merveilleux et plein d'ingéniosité en 2 gestes. C'est comme au téléachat, hein. En 2 gestes, on découpe son ananas, on peut le vider, récupérer la coque de l'ananas, mettre un cocktail dedans. C'est absolument... c'est très ingénieux et c'est un gadget. Et je voulais profiter de ce moment pour faire la différence, c'est un truc que je piste vachement entre les outils et les gadgets. Et voilà, j'ai un petit snobisme, parce que j'ai pris un autre objet que je vais vous faire écouter d'ailleurs, parce que c'est un objet qui fait du son. Voilà, ça c'est un diapason.
C'est bon à la technique, vous avez entendu ? Yes.
Alors à l'orchestre, je passe un peu pour un snob, parce que je refuse de m'accorder avec un accordeur électronique. Je préfère utiliser ce truc
que les auditeurs ne voient pas.
Ne voient pas.
Vous me montrez, mais
un diapason, ça a une forme de U un peu allongée et ça donne un La. En fait, ça donne un La à 442 Hz, et ça donnera, il donnera encore un La dans 300 ans, 500 ans, 1000 ans. Et on s'accorde avec ça, mais ça demande de faire travailler son oreille, ça demande de s'investir.
Plutôt que d'avoir un petit écran avec une petite aiguille ou un curseur.
Un petit écran avec une petite aiguille qui fait tout à notre place, voilà. Et les gadgets, c'est des béquilles dont j'essaye de me... Parce qu'une béquille, ça aide, mais ça désapprend. Quand on marche avec une béquille pendant 10 ans, on ne marchera plus jamais sans, voilà. Non, mais pour la blague à part, ce découpe ananas, c'est un cadeau de... Et je ne peux plus m'en passer, je ne peux plus découper.
Mais quel lien entre ces deux objets-là ?
Et bah...
Enfin, c'est plutôt les antipodes.
C'est plutôt les antipodes, c'est exactement... Mais voilà, ça, c'est vraiment un outil. Pareil pour le...
Ça, donc... en fait, il est en train de me montrer le diapason, hein, parce voilà. Qu'on n'est pas à la télé. Donc, quand on vous... Est... Voilà,
pardon,
il faut absolument
oui,
qu'on décrypte ça pour nos auditeurs.
Alors, voilà, je voulais absolument mettre ces deux objets en parallèle, parce que je trouve qu'on a trop de gadgets, et qu'on sait plus servir des outils. Alors, blague à part, ce découpe ananas, il est venu par bateau, hein... Il est venu dans un porte-conteneur. On est très fiers de nos porte-conteneurs. Ça pollue beaucoup, un porte-conteneur. Mais c'est très utile puisque ça nous permet de nous ramener des découpes ananas. Et aujourd'hui, grâce à ce découpe ananas, je ne sais plus couper un ananas.
C'est du second degré. Hein,
c'est
il est en train de sourire hein, face à moi.
C'est absolument du second degré. Un guacamole est bien meilleur quand on écrase l'avocat avec une fourchette. Il y a quelque chose qui va dans notre guacamole, c'est l'énergie, c'est l'amour qu'on peut y mettre. Un mixeur ne met pas d'amour dans votre guacamole. Un écrasé de pommes de terre, pareil, c'est divin. On perd quelque chose à se servir de gadget. Je tenais à dire que je suis un amoureux de la danse. On a des danseurs fabuleux au Havre, que ce soit au LHC ou...
LHC, faites les sous-titres.
Le Havre chorégraphique.
Oui.
Et le Phare, on a un centre chorégraphique national. Je vais voir beaucoup de spectacles de danse et je râle à chaque fois parce que c'est de la musique
en
électronique,
boîte.
C'est de la musique en boîte. On se sert de gadgets alors que ce qui passe dans mon guacamole, c'est aussi ce qui passe quand on joue de la musique. Ça passe dans l'instrument. Un spectacle de danse sur un écran, ça fait aucun effet. Ça fait très peu d'effet. Ce truc qu'on se transmet, qui est quasiment métaphysique, ne passe que dans le rapport vivant. Ça passe dans l'air, je sais pas. Ça passe dans le...
C'est la même chose quand on va au musée et qu'on va voir une toile.
Et qu'on
regarde sur un écran.
Voilà, l'émotion humaine, l'énergie humaine ne passe pas dans les fils ni dans les tuyaux. Ça passe d'humain à humain. Donc, amis danseurs, mettez de la musique. C'est merveilleux ce que vous faites, mais réinventons la fosse d'orchestre. C'était génial, les ballets dans le temps. Il y avait un trou, il y avait une fosse, on mettait l'orchestre dans une fosse.
D'ailleurs, vous m'avez dit que vous aviez un ami danseur qui avait dit qu'il ne serait pas danseur s'il n'avait pas eu un pianiste qui jouait.
Et
d'ailleurs, vous jouez au conservatoire de danse.
Moi, aujourd'hui, voilà, j'accompagne les cours de danse classique au conservatoire et on pourrait très bien, vous vous rendez compte, ça fait un emploi, un salarié, un fonctionnaire en plus qui coûte de l'argent à l'État, etc., aux contribuables, juste pour jouer du piano alors qu'on pourrait mettre un CD. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, moi, le CD fait pas de fausses notes, le CD se plante pas dans le rythme, etc. Mais le CD, il est pas vivant.
Antoine Bouchaud, vous êtes bien vivant, vous, et vous nous avez fait le grand plaisir de venir partager votre passion. Je pense que vous avez pu faire naître parmi nos auditeurs des passions, ou en tout cas faire changer d'optique les choses. Mmh. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup, Clarlie, c'était un plaisir.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are, 'cause I wear a silly grin, the moment you come into view. Chances are you think that I'm in.